Radio Barque numéro 36, troisième partie, avec notre invité, donc Alain Perea, député LAREM. Qu'est-ce qu'on dit exactement aujourd'hui, Alain Perea? LAREM, LRM, enfin le
site. Non, LAREM, La République en Marche.
Voilà, ça marche bien.
Oui, ça marche très
et
bien.
Et c'est l'étiquette qui vous convient.
Oui, c'est une étiquette qui me convient et j'ai aucun souci par rapport à ça.
Parfait. Alors, merci donc de participer à la fin de saison de ce Radio Barque. On vous a eu assez souvent et c'est logique puisque vous êtes sur le terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets à évoquer. On ne les évoquera jamais tous, mais on va peut-être... Allez, on va commencer par un point d'actualité. La polémique sur la chasse qui règne aujourd'hui entre M. Bastier et le président national de la Fédération de chasse. Alors, en tant que député, j'imagine que vous restez neutre, mais vous êtes vous-même chasseur, vous êtes très impliqué au niveau parlementaire sur la chasse. Donc, vous avez un regard là-dessus qui est pas neutre quand même.
Alors, je suis président du groupe d'études de chasse à l'Assemblée nationale.
Voilà.
Je suis au cœur du débat là sur la création de l'Office français de la biodiversité, qui est un bel outil que nous sommes en train de créer pour tous les enjeux de biodiversité et de chasse. J'étais le week-end dernier avec Willy Schran au Game Fair, qui est le grand salon de la chasse en France, où d'ailleurs j'ai remis des prix sur la connaissance de la chasse.
Qui se tient où ?
Qui se tient à la Motte-Beuvron.
La Motte-Beuvron, voilà, dans le Cher ou dans le Cher ou le Loir-et-Cher ?
Loir-et-Cher.
Loir-et-Cher.
Et j'étais l'invité de président d'honneur de cette cérémonie. Et voilà, donc j'en ai discuté avec Willy Schran. Yves Bastier est mon ami. Je le connais depuis de nombreuses années. Je crois que c'est un problème fédéral entre une fédération nationale et une fédération départementale. Donc, vous l'avez bien dit, moi en tant que député, j'ai pas à rentrer dans cette histoire-là. Ce que je sais, c'est que la fédération départementale de chasse fait un travail remarquable, essaye de faire remonter des informations qui vont dans le sens du rapport que j'ai remis à la ministre et au ministre de l'Agriculture récemment, et essaye d'identifier vraiment quels sont les enjeux, notamment par rapport aux dégâts de grand gibier. Ce travail remarquable impose un certain nombre de contraintes. Ces contraintes ne sont pas forcément validées au niveau national. J'ai essayé de faire passer le message à Willy Schran, président de la Fédération nationale, et j'espère que les choses vont se régulariser. Voilà, donc c'est un épiphénomène. Nous sommes en train de mener au niveau national une belle réforme. Au niveau départemental, les choses se mettent en place et je crois qu'on va aller vers de l'apaisement. Et là-dessus, j'appelle tous les interlocuteurs et bien sûr tous les acteurs à un peu de modération.
Parce qu'il faudrait donc que le président national admette que dans certains départements, ça peut se passer un peu différemment parce que les conditions sont différentes.
Ben, c'est le grand problème de la chasse en France, c'est qu'elle est basée sur une approche qui est une approche territoriale et donc communale et départementale. Le niveau national était un niveau beaucoup plus faible. L'objectif de Willy Schran, que je partage totalement, c'est de renforcer le niveau national. Et renforcer ce niveau national chaque fois que j'interviens, puisque je suis allé dans les assemblées générales, dans l'Aude bien sûr, mais je suis allé dans l'Ariège, je suis allé dans l'Aisne, je suis allé dans l'Aveyron. Je porte ce message qui est de dire, l'objectif n'est pas de renforcer les uns au détriment des autres, mais au contraire de donner de la force à la chasse française. Et je voudrais aussi m'adresser aux auditeurs qui ne sont pas forcément chasseurs, certains sont même anti-chasse. L'objectif quand on défend la chasse, c'est de défendre la biodiversité. Et être acteur de la biodiversité dans notre pays, ce n'est pas forcément être pour la chasse ou être anti-chasse, il faut arrêter d'opposer les gens. Moi j'emploie souvent cette image. Dans les villes, dans les métropoles, on a voulu faire des quartiers, on a voulu séparer les gens. Et on voit ce que ça a donné. La nature, c'est le contraire de ça. La nature vit ensemble, intimement liée. Les différents éléments de la nature doivent véritablement fusionner. Et donc, quand on est un amoureux de la biodiversité, quand on est un amoureux de la nature, eh bien, il faut reproduire ce que fait la nature, c'est-à-dire vivre ensemble.
Oui, alors donc une certaine tolérance, mais d'après ce que dirait monsieur Yves Bastier, il y a le problème du permis à 200 euros qui déséquilibrerait certains comptes. Enfin, j'avoue, je suis pas un spécialiste, mais qu'en est-il exactement ?
Alors, c'est pas tellement le permis à 200 euros qui déséquilibrerait certains comptes et cette polémique-là qui est en train de naître. Elle est très technique, donc je ne vais pas l'expliquer là en détail, mais en fait, pour pouvoir faire remonter des informations, parce que aujourd'hui nous avons un problème en France, ce sont les dégâts de grand gibier, essentiellement
chez nous les sangliers.
Chez nous essentiellement les sangliers. Le Premier ministre m'a confié au mois d'octobre une mission sur ce dossier-là. Je viens de le dire là, donc on a rendu le rapport avec le sénateur Cardoux, et l'objectif, on a mis trois éléments dans ce rapport: un, rationaliser; deux, dialoguer; trois, agir. et d'en rationaliser, il y a un point qui est très important, c'est de véritablement connaître quels sont les enjeux. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, il y a beaucoup de chiffres, d'éléments que l'on ne connaît pas. Et la Fédération départementale de l'Aude, pour bien connaître ce qui se fait comme dégâts, a demandé la mise en place d'un carnet particulier qui fait que chaque chasseur doit remonter les informations de ce qu'il prélève et de ce qu'il régule. Ce carnet a un coût, et ce coût, eh bien, il est demandé aux chasseurs, qu'ils soient des chasseurs au doigt ou des 5 euros, hein, pour ou aux chasseurs extérieurs au territoire. Et de là naît cette polémique autour de ces 5 euros qui, vous le voyez, les enjeux des dégâts de sangliers sont bien au-delà de ces 5 euros. Et je crois que voilà, il faut revenir à plus de raison.
Mais c'est ça que le président national n'admettrait pas.
C'est effectivement ça, parce que en fait, il y a une vraie communication en France qui est faite autour du permis à 200 euros. Et si vous venez chasser le grand gibier dans l'Aude, eh bien, ça sera pas 200 euros, ce sera 205, avec un chèque de caution de 50 euros pour vous obliger, pour vous inciter à rendre votre carnet de prélèvement. Voilà, donc tout ça, il faut l'apaiser, il faut le rationaliser. Et je crois que l'enjeu de la chasse, mais surtout l'enjeu de la biodiversité. Vous savez, le week-end dernier, donc j'étais à la Motte-Beuvron, j'ai traversé toute la France, enfin de la Motte-Beuvron à Narbonne, en voiture. Mon pare-brise était propre. Voilà, mon pare-brise était propre. Et donc c'est quelque chose en début d'été, on était habitué à avoir des insectes partout, à être obligé de s'arrêter. Eh bien là, ce n'est plus le cas.
Ça veut dire qu'ils sont morts.
Mais ça veut dire que quand vous traversez la France, vous n'avez plus des insectes qui viennent télescoper votre pare-brise. Et le vrai enjeu de la biodiversité, il est là, parce que derrière les insectes, il y a toute la chaîne alimentaire et il y a bien sûr l'être humain. Et donc moi, si je me bats aujourd'hui pour des questions de chasse, si je me bats pour des enjeux de biodiversité, si on se bat dans ce formidable territoire qui est le nôtre avec le parc naturel régional, c'est parce que les vrais enjeux, ils sont là. Ils sont pas autour de
deux hommes. Pas 5 euros de plus ou de moins.
Et c'est pas 5 euros de plus ou de moins. Donc, voilà, battons-nous pour les choses qui en valent le coup, pas pour des polémiques qui, à mon sens, ne devraient pas exister.
Voilà,
et encore une fois, dans l'Aude, nous avons une fédération qui fait du travail et qui fait du bon travail.
Voilà, merci Alain Perret de remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte. Alors, autre, non pas polémique, mais regard qui a inquiété certaines personnes ou surpris d'autres personnes, c'est que au cours d'un vote récent pour la réforme de la fonction publique, vous avez, alors certains ont dit, voté contre votre gouvernement. En tout cas, vous avez marqué votre désaccord. Ça mérite évidemment une explication.
Alors effectivement, une explication. D'abord, je n'ai pas voté contre le gouvernement. J'ai voté contre une loi. Je suis le seul député de la majorité à avoir voté contre cette loi. Et j'avais prévenu depuis de nombreux mois le ministre en charge de ce dossier, Olivier Dussopt, que le texte tel qu'il était en train d'arriver ne me convenait pas. Bon, j'ai pas réussi à me faire entendre. J'ai ensuite prévenu le ministre qui est un ami en charge des relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Il m'a incité à rencontrer un certain nombre d'acteurs, on a discuté. Bon voilà, j'ai pas réussi à être entendu, donc j'ai écrit un courrier au Premier ministre pour le prévenir que je ne pouvais pas voter ce texte de loi. Je me suis battu en commission 2 jours de nuit, je me suis battu dans l'hémicycle 1 semaine entière, et quand on dit 1 semaine dans l'hémicycle, c'est aussi des séances jusqu'à 1h du matin. J'ai défendu mon point de vue, j'ai défendu les amendements, et au final, j'ai voté contre. Voilà, moi je crois que c'est une aussi force de notre majorité, de pouvoir à un moment donné, lorsqu'on n'est pas d'accord, pouvoir s'exprimer, pouvoir le dire. Au début du mandat, beaucoup de personnes ont voulu nous faire passer pour des godillots.
Oui, c'est ce qu'on dit
gens,
toujours.
Des gens qui étaient aux ordres. On le dit malheureusement toujours. Encore une fois, je l'avais déjà fait une première fois sur la question de l'étiquetage du vin. Je le refais là de manière plus forte en votant contre une loi. Je ne suis pas pour autant exclu de mon mouvement. Je ne suis pas mis au banc. Simplement, il faut que les gens comprennent que cette nouvelle majorité, enfin qui maintenant a 2 ans, est une majorité différente de ce qu'ils ont compris. Et surtout, les gens qui sont dans les vieux partis, y compris celui qui est majoritaire, enfin, ou qu'il était dans notre département, ben, il faut qu'ils comprennent que leurs méthodes à eux ne sont pas les méthodes de la REM. Et il faut qu'ils arrêtent de les critiquer en disant voilà ce qui se passe, parce qu'en fait, ce qui se passe chez eux, ce n'est pas ce qui se passe à La République en Marche.
Alors, explication sur le fond maintenant de ce désaccord.
Ben, écoutez, c'est simple. La fonction publique en France a tire ses...
Les fonctions publiques, voilà, elle est donc, triple.
Je ne vais pas remonter jusqu'à une page d'histoire, mais en fait, dans les années 80, avec la décentralisation, il y a la fonction publique d'État qui est déclinée avec la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Ce sont les trois fonctions
territoriales,
publiques.
Territoriales, ce sont les départements, les régions, les communes.
Exactement, c'est pour ça qu'on est avec la décentralisation dans le début des années 80. Et il y a un grand principe qui dit que les fonctions publiques hospitalières et les fonctions publiques d'État, territoriales, ne pourront jamais être supérieures ou différentes de la fonction publique d'État. Et donc vous avez une véritable féodalité qui se fait avec la fonction publique d'État.
Une uniformisation forcée,
voilà,
en quelque sorte.
Exactement, c'est vraiment quelque chose qui est gravé dans la loi. Et aujourd'hui, ces enjeux-là ne répondent plus aux problématiques de nos territoires et aux problématiques que nous avons véritablement dans notre pays. Et donc, pour faire court, trois choses. Un, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, la santé est un des enjeux majeurs de notre pays. Nous avons un véritable problème dans les hôpitaux. Et donc la fonction publique hospitalière doit être une fonction publique qui doit être soutenue, qui doit être véritablement accompagnée, parce que les urgences, on le voit, il y a des grèves dans les urgences, mais au-delà de tout ce qui est les hôpitaux. Et puis, vous venez en vacances à Narbonne, vous avez un problème de santé, vous allez à l'hôpital de Narbonne, lorsque vous allez repartir dans votre territoire, il faut que vous soyez accueilli dans l'hôpital avec même suivi de soins. Et donc nous avons véritablement besoin d'avoir des fonctionnaires qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont véritablement l'habitude de prendre des protocoles de soins qui soient des protocoles de soins identiques. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une fonction publique hospitalière forte et qu'il faut soutenir.
Oui, ce n'est pas le cas qui est donc spécifique en France. Hein.
Exactement. Ce n'est pas le cas dans cette loi. Et donc, moi, je ne pouvais pas la voter. Ensuite, la fonction publique territoriale, celle des communes, des départements, des régions. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique où les choses vont vite, avec des missions particulières, avec des demandes des populations qui changent. On le voit, les maires se plaignent régulièrement de l'exigence de la société civile. Et pour répondre à cette exigence qui est en pleine évolution, qui va très vite, il faut qu'il y ait une fonction publique territoriale qui soit beaucoup plus mobile, qui soit beaucoup plus adaptée, qui n'ait pas ce carcan lourd qui arrive de l'État. Et donc moi, je voulais que l'on soit beaucoup plus souple dans la fonction publique territoriale. Ce n'est pas forcément le cas. Et donc, je ne pouvais pas y aller. Et ensuite, sur la fonction publique d'État, eh bien, je dirais que c'est un mixte. Il y a à la fois des missions qui sont des missions importantes sur lesquelles nous devons aider. Les professeurs doivent être plus soutenus. Tout ce qui est lié à la sécurité, à la justice, on doit donner des moyens supplémentaires. Et après, il y a d'autres missions qui sont des missions qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément des missions régaliennes à la base. Je pense à certaines missions qui sont liées à l'environnement ou à d'autres dossiers. Et ces missions-là pourraient être faites par des personnes qui n'ont pas forcément un statut de fonctionnaire, qui est un statut dur. Et donc, on est sur quelque chose de plus souple. Voilà vers quoi je voulais que l'on aille. Ce n'est pas du tout été le cas. Je pourrais donner des explications beaucoup plus longues et pourquoi on en est arrivé là. Mais bon, voilà. Donc j'ai voté contre ce texte et cela me conduit à aujourd'hui m'engager encore plus sur cette réforme de la fonction publique. C'est la raison pour laquelle Sébastien Lecornu, le ministre en charge donc des relations avec les collectivités territoriales, m'a demandé de participer au texte de loi qui est en cours de préparation sur justement les maires et la confiance territoriale.
Voilà, donc une suite à suivre, Alain Perea. À propos du ministre, ce lundi, vous avez assisté à la visite d'un autre ministre, celui de l'Intérieur, à Narbonne, Monsieur Castaner. Étiez-vous partie prenante dans cette visite? Êtes-vous intervenu quelque part?
Oui, alors... Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, nous fait l'honneur de venir ce lundi à Narbonne. Et donc je l'ai accompagné dans son déplacement. J'avais vu son cabinet il y a maintenant quelques semaines en lui disant que sur Narbonne, il y avait quand même des enjeux forts. Alors bien sûr, il y a cette inauguration de la caserne de gendarmerie.
Oui, qui pourtant est construite depuis quelque temps.
Oui, mais elle n'avait jamais été inaugurée. Et le maire de Vinassan m'avait dit, quand j'avais été élu, ça me ferait plaisir que le ministre puisse venir l'inaugurer. Et je m'étais engagé.
Didier Aldebert est content, alors.
Alors, écoutez, je crois qu'effectivement, il a été content de cette belle inauguration. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais surtout, au-delà de cette inauguration, il y a des enjeux forts sur la sécurité. Dès que j'avais été élu, Les syndicats de police de Narbonne avaient alerté, mais je le savais déjà avant, sur les enjeux liés au commissariat de Narbonne. On a cette gendarmerie qui a été brûlée par les Gilets jaunes. Nous avons les CRS sur la plage de Port-la-Nouvelle, dossier pour lequel je me suis battu, parce que j'ai vu dans la presse un certain nombre de choses qui m'ont mis relativement en colère. Tout le dernier mandat, les CRS ont été retirés des plages. Depuis que nous sommes cette majorité en place, nous avons maintenu les CRS. Ils devaient être supprimés cet été. Avec mon collègue Lionel Cosse des Landes, nous avons pris ce dossier à bras-le-corps. Nous nous sommes battus. J'ai rencontré les CRS l'été dernier. J'étais sur la plage pour voir avec eux comment on pouvait gérer ce dossier. Nous avons fait venir les représentants des CRS à l'Assemblée nationale. Nous les avons reçus. Et nous avons réussi du ministre Christophe Castaner qu'ils maintiennent. Alors, d'autres essayent d'en tirer les profits de ce combat-là. Bon, ça fait partie de leur méthode politicienne. Bon, c'est pas les miennes. Mais bon, il est temps aussi, là, de remettre les choses, comme vous le disiez tout à l'heure, là, les horloges,
les pendules
à l'heure. Voilà, on a obtenu ça. Si ils veulent s'en occuper, ben, qu'ils s'en occupent, mais on verra bien les résultats qu'ils obtiendront, comme ils ont obtenu sur d'autres dossiers le dernier mandat. Voilà.
Voilà. Et puis, il y avait symboliquement la visite de cette gendarmerie sur du peloton autoroutier qui a été brûlé lors d'une manifestation.
Bien sûr, oui, j'en ai parlé. Hein, donc, cette gendarmerie qui a été brûlée. Et puis, tout le soutien aux forces de l'ordre qui, Narbonne a quand même été un noyau assez important.
Oui, la sous-préfecture a souffert également, d'ailleurs.
La sous-préfecture a venu, d'où la visite aussi en sous-préfecture qui a eu lieu. Voilà, donc c'était important que Christophe Castaner puisse venir, et je le remercie. Je suis en train de travailler sur d'autres visites, parce qu'on a des sujets importants, et on a la chance d'avoir un gouvernement qui est sur le terrain, et les auditeurs peuvent essayer de voir, en dehors des phénomènes particuliers, inondations et autres, combien Narbonne, l'Aude, mais Narbonne, accueille des ministres. L'été dernier, on a eu Sébastien Lecornu, accueille des ministres parce que on essaye véritablement, à La République En Marche, d'avoir un gouvernement qui est sur le terrain, et puis surtout, en qualité de député, mais ça, je sais que ça se sait, je tire régulièrement la manche de toutes les personnes que je peux voir à Paris pour leur dire, n'oubliez pas Narbonne,
voilà,
Narbonne pèse.
Venez et voyez, en quelque
voilà,
sorte.
Exactement.
Alain Perea, pour conclure, on ne peut pas conclure sans parler des prochaines élections municipales. Alors, certains ont annoncé clairement des candidatures. Vous, jusqu'ici, vous avez été relativement discret. Et quand un candidat ou un non-candidat est discret, ça ouvre une brèche qui est celle de la rumeur. Alors, il se murmure sur Narbonne que vous serez quand même présent sur une liste LAREM, ou en tout cas apparentée à LAREM, que vous ne serez pas en tête de liste, que ça pourrait être alors quelqu'un, par exemple, comme David Granel, mais ça sera dévoilé le cas échéant, mais que vous seriez présent à bonne position. Et alors, surtout, je me suis laissé dire que vous viseriez la présidence du Grand Narbonne par la suite.
Ça fait beaucoup de salutations. Pour reprendre sur tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, un, je crois que ça se voit, ça s'entend, mon mandat de député que m'ont confié les Narbonnaises et les Narbonnais au sens large, cette circonscription, c'est un mandat qui me plaît, où je m'investis beaucoup, et donc je crois que ce sont des choses sur lesquelles c'est important, quoi. La deuxième chose, je le disais lors de la précédente question, je fais tout à Paris et ailleurs aussi, puisque là j'arrive d'Ankara où j'étais sur une mission internationale. Je serai sur le développement économique à Milan la semaine prochaine. Et donc je fais tout pour que la Narbonnaise soit aussi connue, représentée, et qu'on puisse enfin sortir de ces guerres claniques, Carcassonne, Narbonne, nouveau Narbonne qui veut rester refermé entre eux. Voilà, et donc je fais tout pour que la Narbonnaise puisse véritablement avoir la place qu'elle mérite dans ce pays, dans cette Méditerranée, dans cette région Occitanie.
Et voilà. Donc cette fonction de député vous convient?
Cette fonction de député me convient, mais véritablement, et pour répondre concrètement à votre question, moi ce que je souhaite, c'est que nous ayons une équipe de personnes qui partagent les mêmes valeurs. C'est pas une liste LAREM qui est importante, c'est une liste de personnes qui sont avec les compétences, avec aussi ce qui sont en tant que personnes, avec leurs forces, peuvent porter pour ce territoire. Et donc, moi, c'est autour de cela que l'on travaille. Vous avez cité des noms, je pourrais en citer d'autres. Et donc, je crois que c'est là-dessus qu'il faut avoir une véritable histoire. Ensuite, vous parlez du Grand Narbonne. Moi, il y a des maires aujourd'hui sur le Grand Narbonne qui se sont beaucoup investi des maires de communes, que vous recevez aussi ici régulièrement. Et je crois que il faut sortir de cette logique qui est portée par d'autres candidats, qui est de dire il faut que le maire de Narbonne, ou en tout cas un de ses adjoints, soit forcément président de l'agglomération. Non, il faut que nous ayons là aussi des gens qui soient capables de véritablement porter de manière globale un projet avec leurs convictions, avec leur force, avec leur énergie. Et je vais même plus loin, il ne faut pas s'arrêter à la communauté d'agglomération, il faut regarder au niveau du département, il faut sortir de ces logiques claniques qui gèrent notre département, et il faut avoir une vision beaucoup plus large. Donc moi, je me bats pour Narbonne, je me bats pour la Narbonnaise, bien sûr en tant que député, je me bats pour notre pays, et je souhaite, comme je l'ai toujours dit, avoir de la force à Paris, avoir de la force à Narbonne, de la force à l'agglomération, de la force à Carcassonne, et donc tout ça, ça doit se faire avec des gens qui ont envie de le faire et qui sont capables de porter des projets au-delà de ce que j'ai déjà pu dénoncer à ce micro, avec uniquement une approche qui est auto-centrée ou une approche qui est sur des détails, des procès ici, ou des visions qui sont des visions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de notre pays, qui sont à la fois pour protéger les Narbonnais, parce que les Narbonnais ont besoin d'avoir une sécurité dans leur quotidien, dans leur parcours de vie, mais aussi porter Narbonne, faire du développement économique, protéger cet environnement. Et donc, tout ça, ça doit se faire avec véritablement différents acteurs. Croire que Alain Perea pourrait porter tout ça, c'est faux. Et de toute façon, ce serait prétentieux de ma part. Et je crois, et autour de moi, il y a déjà une trentaine de personnes qui sont sur Narbonne et qui sont dans les villages, qui ont envie de porter tout ça. Et je crois surtout que on va sonner dans les mois qui viennent un vrai réveil de la Narbonnaise qui s'est trop endormie depuis 6 ans. Et c'est pas avec les candidats que je vois émerger que l'on va faire bouger les choses.
Voilà. Eh bien, merci pour cette clarté dans vos propos, Alain Perea. Donc, je précise que vous êtes l'avant-dernier candidat de cette saison et que nous clôturerons donc la prochaine fois avec quelqu'un qui a été longtemps journaliste et qui apparemment voudrait un jour être maire d'Ouveillant, pour être précis. Il s'agit de Jean-Paul Chalulot. Merci Alain Perea de nous avoir expliqué tout ça. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci.